fremde Kulturen ins Rübiland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind live in der Sendung Fenêtres sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Heute Abend berichten wir mit unseren Gästen über die Politikkrise in Libyen und Togo. Viel Spaß auf Radio Kanal K. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous à la page panafricaine de Radio-Canada dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. 23 juillet 1992, 23 juillet 2011, il y a 19 ans, jour pour jour, que le combattant de la liberté, le Togolais Tavio Amorin, a été assassiné. Nous lui rendons un grand hommage encore une fois ce soir dans Fenêtre sur l'Afrique. Et comme l'a dit Monseigneur Dovi Ndanou, adieu Tavio, tu pousseras comme un grain de sénévé. Alors, pour revenir au thème de l'émission de ce soir, nous discuterons de la guerre en Libye avec l'avocat Mouedine Benjema, qui connaît bien la politique libyenne. Il répondra à nos questions dans un instant en direct depuis la France. Et au Togo, la démocratie bat de l'aile toujours au Togo. Le FRAC, le Front Républicain pour la Tenance et le Changement, est toujours dans les rues tous les samedis et conteste la réélection de Fonia Singbé. Professeur Aimé Tabouret-Gougué, membre du FRAC, est au studio avec nous. Professeur Aimé, bonsoir.
Bonsoir, Sylvain.
Merci également d'être avec nous, bienvenue en Suisse et j'espère que nous allons passer de bons moments dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Aimé Gougué.
Oui, je suis convaincu. Vos émissions que je suis, moi toujours que c'est toujours très bien.
Merci beaucoup. Et pour parler des droits de l'homme au Togo, nous recevons également M. Kouloussom Eklou. Bonsoir.
Bonsoir Sylvain.
Sous l'œil vigilant de Gisela Rosato, Josué Maouli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Parfaite collaboration de Romain Koudodi et de Prince Freddy. Fabi Kouassi et Rodi Lawson, nos deux correspondants, nous soutiennent toujours depuis Lomé. Réalisation Sylvain Amos. Alors, avant de commencer cette émission, et nous allons écouter tout de suite l'éditorial sous la plume de Romain Koudodi. Guinée, une armée en ordre de pagaille. Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de races. S'ils arrivent au trône par des moyens divers, leur manière de régner est toujours à peu près la même. Ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter, les conquérants comme leur proie, les successeurs comme un troupeau d'esclaves qui leur appartient par nature. Étienne de la Boétie, dans Discours de la servitude. Deux jours après la double tentative d'assassinat et de coup d'État manqué contre le président Alpha Condé, plusieurs interpellations ont été opérées par les forces de défense et de sécurité. De sources proches des autorités militaires, une vingtaine d'officiers sont actuellement arrêtés, auxquels viennent s'ajouter depuis 24 heures seulement deux autres figures emblématiques du CNDD, le colonel Erdoba et le lieutenant-colonel Mamadouba Bondambo Camara, ex-préfet de Djoubrika. La crise en Guinée est liée à l'histoire des militaires indisciplinés, faits de purges brutales, de promotions express, de troupes livrées à elles-mêmes et d'une hiérarchie déconsidérée. Que les hauts gradés laissent sans broncher un obscur capitaine sans charisme, j'ai nommé Dadis Camara, prendre le pouvoir à la mort de Lassana Conté était déjà un signe révélateur de l'état de déliquescence de la grande muette guinéenne. Depuis lors, le monde entier sait que nul ne contourne cette armée guinéenne où règne l'indiscipline et où un caporal peut dire merde à un colonel. La sanglante répression du 28 septembre 2008 est le premier fer d'arbre de ce conglomérat de mercenaires et de bidas de fortune. Ces nouveaux venus apportent leurs ingrédients à un cocktail déjà explosif. L'armée guinéenne est en effet devenue une poudrière susceptible d'exploser à tout moment à la figure des Guinéens. Elle est en vérité aliment des armées africaines, véritable héritage des colons français. Les Africains ont encore en mémoire le premier coup d'État sur le continent de la soldatesque Étienne Gnassingbé Eyadema du Togo, soutenu et épaulé par la France paternaliste. En Guinée, au lendemain de la tuerie du 28 septembre 2008, le ministre de la Défense à l'époque, Sékouba Ba Konaté, commandant, récemment promu général, avait tenté de faire arrêter Aboubacar Diakaté, l'aide de camp de Dadis Camara, accusé à l'époque d'être l'un des instigateurs de la répression qui a dirigé les tueries. Finalement, pour faire retomber la tension, Sékouba Ba Konaté a été envoyé en Ukraine pour y conclure un contrat d'armement de quelques 45 millions de dollars, un bel os à ronger. La population guinéenne, elle, continue à vivre dans la peur de ces hommes en armes censés la protéger. Les Guinéens ont encore en mémoire les soulèvements populaires de janvier et février 2007 qui se sont soldés par la mort de 120 civils. La tuerie du 28 septembre 2008 est venue confirmer la réputation d'une armée qui tue, pille et viole. Ces exactions sont le reflet d'une culture de violence, d'impunité et de toute puissance de l'armée qui se croit titulaire d'un permis de tuer. L'anarchie s'installe dans les rangs. Les jeunes officiers, formés dans les meilleures écoles du monde, à l'instar de l'école de guerre de Paris, Pittsburgh, Meknex, etc., ne se retrouvent plus dans les méthodes de management de la haute hiérarchie. Pendant que les plus gradés roulent carrosses, s'enrichissent avec des trafics de toutes sortes, les autres voient leur pouvoir d'achat réduire par une inflation galopante. Généraux et colonels perdent ainsi l'estime, mais également la subordination des moins gradés, pour couper court au désordre. Le président Alpha Condé hérite d'une armée indisciplinée, déchirée par un conflit de génération et minée à l'image de tout le reste de la société guinéenne par des clivages ethniques. La situation actuelle du désordre de l'armée n'est que l'image, le reflet ou encore la vitrine de toutes les armées africaines, notamment de l'Afrique francophone. Cette problématique est une épine dorsale qui nuit dangereusement à l'évolution d'une Afrique qui se cherche, dont les impérialistes ne nous lâchent pas les baskets. Romain Koudjadi. Yeah.
yemuke tua, yepo wona, pataba wawade, yekuleme, muna mesia meto, yo wone dodo, mi va vovo, mi levo vovo, ma twepe, akato soke, wone rovo, et toi si tchetio, et muke nyame toa, et tu blonado, et muke nyame toa, et tu blonado.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
La guerre en Libye continue et ne cesse de causer des dégâts. Des civils sont les premières victimes de cette guerre tragique en Libye. Le colonel Kadhafi défend toujours son territoire et se dit prêt pour ne pas quitter la Libye. Nous allons nous entretenir tout de suite en ligne, en direct depuis la France avec M. Mouedine Benjema, avocat de son État et l'un de ceux qui ont déposé plainte au tribunal pénal international contre Nicolas Sarkozy et ses complices de l'OTAN pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et M. Mouedine Benjema, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'être en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je viens de le dire que vous venez de porter plainte contre l'OTAN et le président français Nicolas Sarkozy pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Est-ce que vous-même, vous croyez à l'aboutissement de cette plainte et à la manifestation de la vérité, monsieur Mouedine Benjema?
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vos auditeurs. Je vous remercie pour cette invitation, mais je rectifie ce que vous avez dit. J'ai pas posé plainte contre Sarkozy, j'ai posé plainte contre l'OTAN. C'est l'OTAN qui est en train de bombarder depuis 4 ou 5 mois.
Monsieur Benjamin, nous vous recevons un peu mal. Et revoyez un petit peu votre téléphone.
Là, c'est bon ?
Oui, c'est bon. Oui, allez-y maintenant, oui, allez-y, oui.
Ok, donc je rectifie ce que vous avez dit, que j'ai pas déposé plainte contre Sarkozy et compagnie, mais j'ai plutôt déposé plainte contre l'OTAN qui est en train de bombarder depuis 4 ou 5 mois des civils, des bâtiments civils, que plein d'associations internationales qui sont parties en Libye, ils ont bien vu que c'est des civils qui se sont attaqués, qui se sont visés par ces bombardements. Il y a eu quand même, jusqu'à l'heure actuelle, plus de 800 morts, des civils libyens. Ce qu'il y a, c'est on ne peut pas rester quand même le bras croisé dans cette guerre, dont tout le monde sait très bien que c'est une guerre de pétrole, sans oublier que la Libye est quand même... tous les Africains, il y a eu quand même une population africaine de 2 à 3 millions qui travaillaient, ces gens-là, ils envoyaient des mandats à leurs enfants et à leurs femmes qui sont dans les pays limitrophes de la Libye, excepte il y a eu quand même 1 million et plus de 100 000, 1 million d'Égyptiens, plus de 100 000 Tunisiens, à part les Marocains et les Algériens qui travaillent en Libye. La Libye, c'est quand même un potentiel économique africain. On n'oublie jamais ce que Kadhafi a travaillé pour, quand même, le gouvernement libyen a travaillé pour l'Afrique, construction des hôpitaux, construction Que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, et un peu partout.
Oui, exactement. Mouedine Benjemia, et au début de cette révolution libyenne, hein, et le guide Mouammar Kadhafi avait tenu des propos scandaleux. Je cite par exemple, il disait « Rendez vos armes immédiatement, sinon je vous promets une boucherie. Ne pensez-vous pas quand même que l'OTAN doit intervenir pour arrêter cette tuerie en Libye ?»
La propagande et les médias mensonges, monsieur, ce qu'on écoute, c'est une chose, et quand on est sur le terrain et on voit la réalité, c'est autre chose. Il va falloir bien préciser que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de révolutionnaires libyens. Le problème s'était posé directement par des bandes armées qui venaient d'après le gouvernement libyen, et puis on n'en a pas vu, sincèrement. Des Libyens qu'ils avaient des demandes civiles, qu'ils avaient des papiers comme c'était passé en Tunisie. Par exemple, en Égypte, on a bien vu des gens qui sortaient dans la rue, qui demandaient, ils avaient quelques demandes. Mais là, c'était pas le cas. Là, on a vu directement à Benghazi des gens qui sautaient sur les postes de police, qui allaient attaquer les tribunaux, qui allaient attaquer tout ça. Le gouvernement, il a quand même le droit de répliquer. Mais j'ai jamais entendu parler, à ma connaissance, que Kadhafi a promis une tuerie, une boucherie à son peuple. Ça, c'est... Il n'y a aucune télévision qui a passé ce discours, je répète. Sans oublier aussi que ceux qui sont actuellement à la tête des insurgés, il ne faut pas oublier que c'est monsieur le ministre de la justice, qui a été pendant plus de 30 ans ministre de la justice de M. Kadhafi, ainsi que le ministre de l'Intérieur, qui est M. Younes Chepaki, qui a été aussi compagnon de Kadhafi plus de 40 ans. Donc, on peut pas, le peuple, s'il y a vraiment une révolution, le peuple ne peut pas, par confiance, aux mains, si Kadhafi, admettons que si Kadhafi c'est un tueur, si Kadhafi c'est un dictateur. Donc il avait bien, pour être un dictateur, il avait bien ses pions. Et ces pions-là, je vois mal comment ces anciens ministres et ceux qui vont être à la tête de la CIOG.
Oui, monsieur Mouedine Benjemia, vous venez d'organiser une conférence cet après-midi même sur la guerre en Libye. Et sûrement que vous avez à vos côtés Esmen Bedrouni, qui est le responsable de l'Observatoire international pour la paix. Est-ce qu'il est à vos côtés, Esmen?
Oui, il est à votre écoute.
Mm-hmm.
Oui.
Bonsoir, Esmen Bedrouni.
Oui, allô?
Oui, bonsoir, Esmen Bedrouni.
Bonsoir.
Oui, et vous avez organisé sûrement cet après-midi en France une conférence de presse sur la guerre en Libye. Et vous êtes le fondateur de l'Observatoire international pour la paix en Libye. Et vous organisez aussi un voyage du 25 au 31 juillet 2011 intitulé...
Oui, la semaine prochaine.
Et la semaine prochaine intitulé « Voyage et découverte de la Libye » et loin des mensonges médiatiques dans le but de montrer la vérité concernant la situation en Libye, c'est ça?
Tout à fait. Et cette fois, l'objectif, c'est de montrer aux citoyens, aux populations civiles, un citoyen lambda, on leur donne la possibilité de venir gratuitement sur place en Libye et de voir la différence entre ce que les médias nous rapportent et la réalité sur place. Et ceci de manière totalement gratuite, ils n'ont rien à payer. Tous les citoyens européens peuvent s'inscrire. En envoyant donc leur nom, leur prénom, numéro de passeport, et nous nous chargeons des billets d'avion, du voyage, de l'hôtel, etc., et des excursions en autocar pour rencontrer les populations civiles libyennes sur place.
Oui, Esmen Bedrouni, dans cette affaire de la guerre, ou dans cette guerre libyenne, le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, a pour sa part affirmé que le colonel Kadhafi pourrait rester en Libye et s'il acceptait un cessez-le-feu. Et selon vous, est-ce que c'est le début déjà d'une négociation?
Mais il se prend pour qui, lui? Pour décider qui qui peut rester dans son propre pays, dans sa propre terre natale et sur la terre de ses ancêtres. Il est qui, lui, ce ministre français, pour affirmer des choses comme ça, pour décider il peut rester ou il ne peut pas rester. On n'a pas besoin d'autorisation pour rester sur sa terre natale et sur sa terre de ses ancêtres. C'est totalement absurde. Dans quel monde vit-on ? À mon avis, ce ministre vit sur une autre planète. Il a dû se tromper, quoi.
Oui, Smen Bedouni, et le port de Brega est encerclé par les rebelles, et qui lance un assaut final contre les soldats du guide libyen. Bon, si Kadhafi aime effectivement son pays, pourquoi ne capitule-t-il pas pour éviter le massacre et le bain de sang, Smen Bedouni ?
Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas les informations que nous avons sur place.
Oui.
C'est la politique médiatique et la politique française qui veut faire croire qu'elle maîtrise ou qu'elle contrôle la population ou qu'elle représente un danger pour les Libyens. La réalité sur place, c'est pas ça du tout. La réalité, c'est que c'est l'inverse en réalité. Les forces libyennes ont encerclé les rebelles à Brega, justement. Et ils ont fait un détour de 100 km de rayon pour pouvoir les encercler totalement. Ensuite, ils ont resserré les taux et ils les ont mis hors d'état de nuire. Voilà la vérité. Ce qu'on dirait dans l'encoche commun, une défaite. Et les médias continuent à dire, ici en France peut-être, apparemment d'après ce que vous êtes en train de dire, ils prétendent que ce serait l'inverse. Mais alors que c'est totalement faux d'ailleurs, sur Internet, les images ont été diffusées, les journalistes sont allés sur place et ils ont filmé, ils ont interrogé les populations de Brega, etc. Et les rebelles n'ont rien du tout sous leur contrôle, c'est totalement faux.
Oui, Smen Bedouni, et c'est pour cette raison que, en tant que fondateur de l'Observatoire international pour la paix en Libye, et que vous organisez la semaine prochaine un voyage du 25 au 31 juillet 2011, voyage intitulé « Voyage et découverte de la Libye et loin des mensonges médiatiques ». C'est ça, Smen Bedouni ?
Oui, tout à fait, justement. C'est pour permettre à tout le monde d'aller, les citoyens européens qui... Comme nous sommes actuellement en période de vacances, nous savons qu'il y a des jeunes qui soit n'ont pas préparé leurs vacances ou n'ont pas eu de projet de vacances ou n'ont pas les moyens financiers de partir en vacances. Nous leur proposons une semaine de vacances en Libye, tout frais payé.
Smen Bedouni, merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amous.
Eh bien, maintenant, retour au Togo où les manifestations du FRAC continuent toujours. Et notre correspondante Fabi Kwasi est déjà en ligne en direct depuis Lomé. Nous allons la recevoir tout de suite. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir, auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Fabi, le FRAC, Front républicain pour la tenance et le changement, est toujours dans les rues de Lomé et pour son habituelle manifestation de tous les samedis. Fabi, de quand disent que ces manifestations sont en train de s'essouffler, Fabi?
En tout cas, le FRAC maintient sa tradition, hein, vous venez à l'instant de le dire, le rituel est maintenu. Et comme le leader du Parti des Travailleurs le dit assez souvent, même si c'est deux personnes, même si c'est trois personnes, on ne va jamais arrêter de battre les pavés les samedis matins. C'est vous dire que ce n'est pas l'affluence des 400 000, des 200 000, des 500 000 dans la rue, mais une bonne constance est bien là. Ça ne désemplit pas pour autant. Ce n'est pas la grande foule des grands jours également, mais le FRAC est là. Et le FRAC a encore battu les pavés ce samedi. Le FRAC s'est intéressé au meeting de la place du changement ou à la place Tahrir, comme certains s'amusent à le dire, s'est intéressé donc à l'actualité avec les parodies de Kosen, pendant que les vrais coupables circulent en toute liberté. L'autre message est celui de l'union de l'opposition pour Jean-Pierre Fabre, le président de la MC et leader du FRAC. L'union de l'opposition doit se faire sur des bases claires. Il a invité les autres responsables de l'opposition à dénoncer les violations massives des droits de l'homme, les violations permanentes de la Constitution. l'immigration, l'exclusion des députés ANC, des actes de bon sens que certains leaders tardent à dénoncer ou ne dénoncent pas du tout. C'est vous dire qu'à demi-mot, c'est plus ou moins l'une des conditions pour l'ANC et le FRAC de parler d'une probable, d'une certaine union avec les autres forces politiques de l'opposition. Et donc le Front républicain pour l'alternance et le changement ne participera à aucune union qui va tirer le peuple vers le bas. Le FRAC, enfin, appelle comme toujours à la résistance contre l'arbitraire qui doit continuer. Donc jeudi prochain, le FRAC manifestera encore contre ce projet de modification de la constitution togolaise.
Oui, Fabi, la réaction de l'ancien premier ministre togolais Eugène Koffi Adoboli, condamné hier à 5 ans de prison, ne se fait pas entendre. Hein. Dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de Liberté, Eugène Adoboli affirme que c'est plutôt le gouvernement togolais qui le doit de l'argent. Fabi, quelle interprétation peut-on donner à cette affaire de détournement de fonds entre l'ancien premier ministre Adoboli et l'État togolais?
Tu l'as bien dit, c'est vraiment le Togo des affaires, l'affaire Adoboli, du nom de l'ancien premier ministre togolais jugé par contumace par la cour d'assises de Lomé qui le condamne, on l'a dit, à 5 ans de réclusion criminelle et à une amende de 100 millions. Une affaire qui, pour la plupart des observateurs, ressemble plus à une plaisanterie de mauvais goût. En fait, Eugène Adoboli est un autre dossier monté par lequel le chef de l'État togolais veut faire croire à l'opinion, surtout internationale, que la justice togolaise s'est modernisée et indépendante et compte poursuivre entre guillemets les voleurs de la République. Mais à y voir de près, les pilleurs du passé et du présent sont au pays largue, les paisibles citoyens tous les jours sans que la justice ou aucune autre institution ne les inquiète. Certains parmi eux continuent de soutenir qu'ils ont toutes les institutions dans leur poche. Et donc, sous le fils, c'est toujours la politique de deux poids, deux mesures, Eugène Adoboli, qui ne nous appartient pas de défendre, hein, et qui se trouve en terre suisse jugé par contumace pendant que les Ferdinand Tiamsi, ancien DG de l'OPP, ou encore les Kwasi Kwarteng, ancien Premier ministre avec son business IDH, investir dans l'UMA, circule peinard, ressemble plus à du folklore qu'à une affaire sérieuse. Et vous connaissez la réaction de l'ancien Premier ministre que vous venez à l'instant de citer. C'est plutôt l'État togolais qui me doit de l'argent à faire, assure donc.
Oui, et Fabi, il y a un rebondissement dans l'affaire Kwacha Nyasimbe, le demi-frère du président Faure Gnassingbé, qui a été arrêté dans une affaire de tentative de coup d'État. Ainsi donc, le général Tidjani vient donc d'être arrêté. Alors, que lui reproche-t-on exactement, Fabi Kwasi?
Oui, très difficile à dire, hein, mais tu l'as bien dit, c'est encore une affaire à une autre. Donc, celle du général Tidjani, mis aux arrêts depuis son 12h, une arrestation qu'on dit liée à l'affaire de tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État, dont le cerveau serait le demi-frère de Faure Gnassingbé, Kwacha Nyasimbe, qui croupit, faut le rappeler, dans les geôles de l'Agence nationale de renseignement ANR depuis plus de 2 ans sans procès, sans la visite de sa famille, malgré les dénonciations de la presse, des organisations de défense des droits de l'homme et des avocats. Il a fallu 2 ans pour que les autorités togolaises auditionnent Faure Gnassingbé, un autre demi-frère de Faure, et les généraux Walla et Tidjani avant d'arrêter ce dernier. Aucune explication officielle aussi n'a été donnée jusqu'à maintenant, mais même si le général arrêté est un lugubre personnage qui a promis l'enfer aux Togolais, qui refuse de regarder dans la même direction, le même qui a pris une part active dans les massacres de centaines de Togolais qui ont permis à Faure Gnassingbé de casser le trône, c'est le même encore qui a esquissé, on s'en rappelle, des pas de danse en mai 2005 à l'investiture du fils du père après la présidentielle la plus sanglante de l'histoire politique du Togo. Mais aujourd'hui, en tout cas, les voix s'élèvent pour qu'il soit traité avec dignité et que la procédure suive son cours dans les règles de l'art. C'est vous dire aussi que pour beaucoup de Togolais, les raisons de cette arrestation sont à chercher ailleurs, de même que cette affaire de coup d'État qui se révèle de jour en jour comme un sérieux canular.
Oui, Fabi Kwasi, il n'y a jamais 203.
Oui, il n'y a jamais 203. La dernière affaire qui emballe la République s'appelle Bertin Agasso, du nom du DG d'OPS Security, une société de gardiennage qui emploie environ 1 000 000 de Togolais torturés, vous rappelez, par le colonel Massina et un trophée de la mer, contrairement à la convention contre la torture à laquelle le Togo est parti, la torture étant un crime imprescriptible contre la loi, puis incarcéré à la prison civile de Tchévier depuis 4 mois pour escroquerie internationale sur un émirati du nom de Abbas Al Youssef qui devrait venir chercher l'héritage supposé du président ivoirien Robert Guéni. Encore un montage à faire recouvrer la vue à un non-voyant, le fameux Mirati Abassal Youssef qui n'est ni de près ni de loin un héritier de Robert Guéni, vient chercher son héritage dans un autre pays et les autorités togolaises déballent le tapis rouge à cet individu, on va dire, en escroc international contre un fils du pays pour une histoire contraire au bon sens. En tout cas, le Mirati qui avait disparu dans la nature se retrouve comme par magie au Togo depuis 3 jours et promet l'enfer à M. Agba, incroyable à vous citer, un papy de 80 ans, un étranger qui vient promettre l'enfer à un Togolais dans son propre pays grâce à une justice sous ordre. Cela n'est possible qu'au Togo. Hier, en tout cas, jusqu'à tard dans la nuit, on parle de 0 heure, a eu lieu la première confrontation entre les protagonistes de cette affaire, sans permis que les autorités judiciaires auront-ils la décence de faire leur travail ou vont-elles montrer qu'elles sont aux ordres. En tout cas, c'est le route ainsi, puisqu'ici, tout le monde sait que les ennuis de M. Adam ont commencé quand il a eu le toupet de s'acheter un jet privé, une Rolls-Royce et une Maybach, ce qui est un crime de lèse-majesté au Togo de Fornyasindo, où seul le prince a droit de rouler 46 avions. Enfin, Abbas Youssef Liberati, qui aurait porté plainte contre Bertin Adba, est connu hein, dans le milieu des affaires pour ses déboires. Selon les indiscrétions, il est notamment connu au Ghana où il serait activement recherché. Les hommes d'affaires ne sont pas des enfants de cœur, mais pour une énième fois encore, celle-ci, cette affaire-là, sont un montage, un des plus grotesques, et c'est le label du Togo du cynisme et des intrigues.
Fabi Kwasi, merci.
Naître sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
Eh bien, retour au studio avec nos invités. Encore une fois, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Alors, vous venez d'écouter le briefing sur l'actualité politique au Togo avec notre correspondante Fabi Kwasi qui était en ligne en direct depuis Lomé. Alors, je m'avais tout de suite posé la toute première question à M. Aimé Tchabouré-Guégué qui est membre du FRAC et président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Alors, professeur Aimé Guégué, vous êtes président de l'ADI et vous êtes aussi membre du FRAC. Alors, comment se porte le FRAC dont vous êtes membre et ce front qui manifeste hebdomadairement dans les rues de Lomé tous les samedis. Et écoutez, monsieur Tchabouré-Aimé Guégué, de quand disent que vos manifestations s'essoufflent et que cela n'apporte aucun changement démocratique au Togo, que répondez-vous?
Vous savez, nous avons opté pour qu'une fois pour toutes, les prochaines élections aient un sens au Togo. Pour nous, l'élection du 4 mars 2010 était une farce. Le RPT a volé les élections, nous ne sommes pas en mesure, nous ne voulons pas l'accepter. Effectivement, il y a des problèmes, nous avons commencé avec beaucoup de monde, maintenant il y a moins de monde, mais quand même c'est la première fois qu'au Togo, depuis plus d'un an, que les gens manifestent constamment tous les samedis. Pour cela, je vais vous citer une légende amérindienne de Rabbi, Pierre Rabbi. Il disait qu'une fois, la légende amérindienne, qu'il y avait un incendie dans la forêt, un incendie terrible. Les animaux étaient atterrés, attristés, ne sachant quoi faire. Il y avait un petit oiseau, le colibri, qui faisait des va-et-vient, cherchait des gouttes d'eau qui venait verser sur l'incendie. Mais cela énervait les autres animaux. Il y avait un autre oiseau, le toucan, qui peut prendre beaucoup plus d'eau. Comparer cela à un petit poisson, à un canard. Le poisson ne peut prendre que quelques gouttes, alors que le canard peut prendre beaucoup. Alors nous, le toucan énervé lui demande, mais Colibri, tu es fou? Est-ce que tu crois que c'est avec tes gouttes d'eau là que tu peux éteindre l'incendie? Et le colibri de lui répondre, je sais que je ne peux pas éteindre l'incendie avec les gouttes d'eau, mais je fais ma part. Donc, le FRAC est en train de faire sa part. Ce que Fabi vient de dire, le Togo est malade. Tout ce qui se passe, il y a beaucoup de Togolais qui sont contre la conduite, la gestion du pays. beaucoup de Togolais. Je crois peut-être on peut dire 70% au moins des Togolais sont contre cela. Mais les gens ne sont pas prêts à manifester cela d'une manière extérieure, à extérioriser leur mécontentement de la gestion du pays. Nous, nous faisons notre part pour que le changement advienne et nous invitons tous les autres Togolais à se joindre à nous. Prenez le cas de la Syrie. Depuis 4 mois environ, les gens sortent tous les vendredis, on les tue, ils continuent à sortir. Les gens disent que ça ne donne rien. Probablement, ça va donner quelque chose demain.
Professeur Aimé Tchabouré Gogué, nous vous remercions quand même. Vous êtes de passage en Suisse. Vous avez quand même répondu à notre invitation. Et Genève à Rose, ça fait environ 3 heures de temps. Alors là, nous ne pouvons que vous remercier et que vous êtes ce soir en direct avec nous dans l'émission. Nous avons reçu plusieurs fois en direct depuis Lomé ce soir. Et l'honneur est pour nous, pour Fenêtre sur l'Afrique, pour Canal 4, de discuter en live avec ou dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Alors, et professeur Mugogé, quel a été l'accueil réservé à votre toute dernière déclaration à l'endroit des représentations diplomatiques? Déclaration qui a fait suite au très scandaleux discours de l'ambassadrice des États-Unis au Togo tout récemment.
Non, d'abord, je voudrais dire que c'est un plaisir pour moi de visiter votre studio. C'est montrer le travail, comment nous apprécions le travail que vous faites au niveau du Togo, au niveau de l'opposition. En ce qui concerne notre réaction au discours de son Excellence l'ambassadeur du Togo et des États-Unis au Togo, effectivement, notre réaction a été bien accueillie par la population. Mais il faut vraiment distinguer deux choses. L'ambassadeur et son Excellence a fait des remontrances sur la manière de gouverner de l'État. Je crois que là, ça fait unanimité. Mais là où il y avait problème, c'est la manière dont elle a traité les résultats des élections passées, où elle disait que c'est l'élection la plus transparente qu'elle n'ait jamais vue, ce qui est totalement faux. Et nous avons discuté plusieurs fois avec elle sur ce point. Ce n'est pas la première fois que nous lui en parlons. Ensuite, parler que le président nous tend la main et nous disons nous ne savons que dire non, alors qu'il y a eu plusieurs fois des tentatives de dialogue entre le pouvoir et l'opposition et on n'a jamais rien vu. On leur a demandé comment faire pour qu'un dialogue ait un sens au Togo. C'est à ces questions qu'il faut répondre et non dire que l'opposition dit toujours non. L'opposition ne dit pas toujours non. L'opposition est prête, le FRAC notamment est prêt à discuter, mais sous des conditions données. Notamment, nous devons discuter des résultats des élections passées et de voir comment nous pouvons travailler pour relever le Togo qui va très mal.
Et professeur Tchabouré Aimé Gogué, je vais encore revenir vers vous dans quelques minutes. Nous avons également au studio le président de l'ATDH, Association Togolaise des Droits de l'Homme. Et vous êtes également de passage en Suisse. On vous a quand même chopé. Hein? Et ça nous a fait beaucoup plaisir que vous êtes au studio en direct avec nous. Alors, monsieur Kloufson et Klouf, c'est ça le nom?
C'est ça le nom.
Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la situation des droits de l'homme au Togo?
Est-ce que la TDH est satisfaite de la situation des droits de l'homme au Togo? Mm-hmm. Pour répondre à cette question avec objectivité, je vais vous donner une définition que la TDH donne aux droits de l'homme et ensemble nous allons trouver la réponse.
Allez-y,
nous disons à la TDH que les droits de l'homme sont constitués de l'ensemble des facultés et des prérogatives dont un individu a besoin pour mener dans une société une vie saine et pleine, en toute sécurité et en toute liberté. Est-ce que au Togo, aujourd'hui, les Togolais peuvent mener une vie saine et pleine, en toute liberté et en toute sécurité? Nous disons non. Nous disons non à partir du moment où, tout à l'heure, quand j'écoutais doyen, professeur...
Ce qui dit que vous n'êtes pas satisfait.
Nous ne sommes pas satisfaits. Mm-hmm. Récemment, la TDH a sorti une déclaration dans laquelle nous disons que œuvre de tant de jours en un jour effacées. Lorsque, au lendemain des élections présidentielles du 4 mars 2010, et que le FRAC contestait les résultats proclamés, on a eu à réprimer les manifestations de contestation, mais quand le FRAC a continué, nous avons constaté que le pouvoir a cédé un peu. C'est-à-dire que les marches de samedi ne sont plus réprimées comme au début. Mais brusquement, ça a augmenté de tension et la TDH est surpris. Mais les événements, pour répondre à votre question, les derniers événements, lorsque le FRAC a voulu manifester selon la loi que nous avons l'habitude d'appeler au Togo, la loi Bodjona, c'est-à-dire la loi de mai 2011, qui autorise expressément les manifestations, les jours ouvrables, ces manifestations ont été encore réprimées. Lorsque les étudiants de l'université de Lomé réclamaient les meilleures conditions de vie et de travail et d'études, ils ont été réprimés.
Oui, on parle également, et il y a au domicile de
j'en viens.
Et il pleut régulièrement des gaz lacrymogènes. Voilà. Oh. Ils sont demandément assiégés par les forces de l'ordre, et des jeunes manifestants arrêtés. Alors, quelle est la part de la TDH dans la situation actuelle, au-delà des dénonciations?
Au-delà des dénonciations, nous avons, je vous dis, avec une légitime fierté, que lorsque la TDH a été saisie, que le domicile du leader de l'ANC et du FRAC, Jean-Pierre Fabre, a été assiégé, je me suis déplacé moi-même avec un autre membre, le maître Bertin Hatton. Nous sommes rendus directement au domicile de Jean-Pierre Fabre. Et effectivement, nous avons constaté que tout le quartier est assiégé jusqu'au domicile de Jean-Pierre Fabre. Il a fallu que nous portions notre gilet qui nous identifiait en tant que défenseurs des droits de l'homme. Et là, il faut dire la vérité, les forces de l'ordre nous ont donné la liberté d'aller. Et nous sommes allés jusqu'au domicile de Jean-Pierre Fabre. Et nous avons constaté que Jean-Pierre Fabre son domicile est assiégé. C'est d'abord une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Togo, notre pays, est parti depuis le 24 mai 1984. Donc tout cela nous réconforte pour dire que les droits de l'homme ne sont pas...
Je reviens encore vers vous dans quelques minutes, Monsieur Coulson et Claude de la TDH. Alors, pour parler encore une fois du FRAC, puisque un membre du FRAC, nous avons l'honneur quand même qu'il est en Suisse, professeur Aimé Tchabouré-Gougué. Alors, bientôt 2 ans que de l'élection, après l'élection de Fort Nyasingbé, et vous marchez toujours. Alors, pourquoi manifestez-vous encore alors que ces élections... bien que frauduleuses appartiennent désormais au passé.
Non, vous savez, vous avez appris cette semaine qu'on a arrêté un des criminels de guerre de la Serbie. Mm-hmm. Bon, ça a lieu il y a, je crois, peut-être 5 ans.
Mm-hmm. Non, oui, près de 5 ans, oui, exactement.
Nous, c'est un fait pour nous. Ford n'a pas gagné les élections et nous allons continuer de contester cela. C'est très clair. Parce que comment voulez-vous que les Togolais puissent croire aux élections demain, puisse aller aux élections si le président ou bien le régime en place est en mesure de faire ce qu'il veut, de donner les résultats qu'il veut? Non, pour nous, on ne peut pas accepter cela. Nous allons continuer à manifester. Nous espérons que les Togolais vont comprendre ce comportement de notre part pour se joindre à nous. Pour nous, c'est la seule manière de faire comprendre aux Togolais que le vote est un élément sacré de la vie ensemble. Au passage, je tiens à remercier effectivement les associations de droits de l'homme du Togo, parce que moi, j'ai suivi les événements, surtout pour les étudiants, et pour les médecins, et de temps en temps aussi j'ai des agents de sécurité qui viennent chez moi, lorsqu'on les signale, les associations des droits de l'homme du Togo interviennent. Et ils sont vraiment tenaces, et ils voient les agents, les responsables de la sécurité du pays pour que les gens fassent des efforts pour respecter les droits de l'homme. Effectivement, ce n'est pas toujours appliqué. Les agents de force de l'ordre n'appliquent pas rigoureusement les dispositions légales qui sont adoptées par notre propre pays, mais il faut reconnaître que les associations de droits de l'homme travaillent sérieusement au Togo.
Oui, et nous allons revenir vers vous tout à l'heure, parlant toujours des droits de l'homme au Togo. Monsieur Kloussonekrou, vous savez que les organisations des droits de l'homme au Togo ne sont pas réactives comme au Sénégal, par exemple. Hein. On parle de la radeau de Aléoutine. Hein. Et aux dernières informations, le pouvoir, il semblerait que le pouvoir les ont infiltrés. Et grave, à telle enseigne qu'on ne sait plus qui est défenseur du droit de l'homme et qui est agent de service de renseignement avec casquette de droit de l'homme. Est-ce que vous confirmez, M. Kloussonekrou?
Je ne confirme pas en tant que tel. Mais d'abord, pour vous situer, nous avons les organisations de droits de l'homme, nous qui sommes réellement, on se reconnaît. Et nous avons demandé au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le HCDH au Togo, qui nous a confectionné des gilets pour nous identifier désormais lorsque nous allons faire le monitoring des droits de l'homme. Donc c'est pour éviter ces infiltrations. Dire que nous ne sommes pas réactifs comme au Sénégal, je dis non. Doyen professeur Gogué l'a dit tout à l'heure. Dites-vous, lorsque les événements des étudiants ont éclaté, nous sommes intervenus. C'est nous qui avions demandé aux autorités, aux plus hautes autorités, quand certains étudiants ont été arrêtés. Nous sommes déplacés, nous sommes allés à la gendarmerie, nous sommes allés à la DPJ pour voir les étudiants et prendre contact avec les autorités pour demander la libération de ces étudiants, ce qui a été fait. Nous nous sommes concertés et nous avons rencontré le conseil de l'université de Lomé, c'est-à-dire les professeurs et le président de l'université, pour lui demander de rétracter sa décision d'exclusion du président du MEIT, l'étudiant Adou. Nous lui avons demandé, il a refusé, mais nous avons fait encore d'autres actions à l'endroit des autorités. Et la nuit du 29 juin, les autorités ont pris une décision à l'endroit, selon ce que nous avons demandé, c'est-à-dire les organisations de défense des droits de l'homme. Donc, nous suivons les choses de près, nous réagissons seulement. À la différence de ce qui se fait au Sénégal, c'est que les Togolais, tout comme le professeur Gogué l'a dit tout à l'heure, les Togolais ne sont plus comme dans les années 90, la mobilisation n'est plus à ce stade. Lorsque la loi Botona a été adoptée en Conseil des ministres, c'est les organisations de défense des droits de l'homme qui se sont réunies. Nous avons donné une conférence de presse. Nous avons dit non. Il y a certaines dispositions de cette loi qui vont à l'encontre des déclarations ou des pactes que le pays a signés suivant les droits de l'homme. Nous avons fait autre chose lorsque récemment, avant mon départ de Lomé, lorsque le gouvernement a voulu également modifier la constitution dans un autre sens, nous avons levé le doigt, nous avons tapé le poing sur la table pour leur dire non, ça ne peut pas aller. Lorsque les députés de l'opposition, les 9 députés de l'opposition ont été exclus de de l'Assemblée, nous sommes intervenus. Lorsque le préfet, tout récemment, le préfet Melebou a fait des déclarations scandaleuses. En droit de l'homme, nous appelons ça incitation à la haine tribale. Nous sommes intervenus, nous avons réagi en ce sens. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire et je crois, avec l'appui de la diaspora, nous allons faire plus que ce que nous faisons.
Monsieur Clousson et Clou de la TDH, merci beaucoup. Je reviens encore vers vous d'ici 2 minutes pour le mot de fin. Nous tirons vers la fin de cette émission encore 10 minutes. Alors, professeur Aimé Tchabouré-Gogué, vous venez d'écouter le défenseur de droits de l'homme, le représentant de la TDH. Alors, vous avez une réaction et si vous n'en avez pas.
J'en ai certainement.
Allez-y, oui.
Non, disons que, comme je l'ai dit, nous reconnaissons que des associations des droits de l'homme travaillent et aident beaucoup pour la défense et la promotion des droits de l'homme au Togo. Ça, c'est le premier point. Mais il faut reconnaître que, compte tenu des pratiques, des habitudes du régime en place, nous sommes convaincus que ces associations sont certainement infiltrées. Bon, mais évidemment, il y a des, comme nos partis politiques, il y a des partis politiques qui sont infiltrés, mais nous le reconnaissons. Mais ce que nous devons dire, c'est que, à l'endroit des Togolais, c'est que les organisations, les associations des droits de l'homme, comme les organisations de la société civile qui se disent intervenir dans le sens de la promotion de la démocratie au Togo, devraient comprendre que ce n'est pas par les communiqués que ce régime changera. Ce régime ne changera pas par d'avoir des communiqués. Ce n'est pas possible. Si les gens ne se lèvent pas, ne se mobilisent pas pour leur faire comprendre que assez c'est assez, je crois qu'ils devraient faire plus. Bon, ça va continuer.
Oui, avant de continuer avec nos invités au studio et sur la politique au Togo, voici un communiqué du mouvement pour un Togo nouveau MTN qui organise son congrès consécutif les 29 et 30 juillet 2011 à Lyon. Le MTN se veut un mouvement d'union des forces vives de la nation togolaise et de celle de la diaspora. Son objectif ultime est de contribuer à l'avènement d'un Togo libre, prospère et démocratique. À cet effet, un appel est lancé à tous les Togolaises et Togolais de la diaspora et du Togo qui partagent les mêmes desiderata à participer à la plénière des travaux samedi le 30 juillet. Adresse Lyon, Saint-Fond, Centre Petite Enfance, 43 bis rue Mathieu du Ségé. 69-190 sans fond. Le congrès débutera à 9h du matin, heure de France. Bus numéro 12, arrêt Mathieu Dussergé, direction sans fond. Personne à contacter, Folie Bété Kodar au 06-77-42-46-25. Et si vous êtes, si vous allez appeler de l'extérieur, vous devez composer le 0033, bien sûr. Alors, vous pouvez contacter également Yves Ekwe Lakoussan au 06-68-17-19-05. Folie Bété Kodar au 06-77-42-46-25. Yves Ekwe Lakoussan 06-68-17-19-05. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le site du MTN, Mouvement pour un Togo Nouveau MTN. Et son site, c'est le www.mtn-togo.org. Alors, nous revenons encore une fois et pour finir avec cette émission avec nos invités au studio. Alors d'abord, Monsieur Clousson et Clou, au finish, est-ce qu'on peut dire que le Togo est en totale régression en matière des droits de l'homme? Est-ce que vous pensez qu'avec ce régime répété, le minimum en matière des droits de l'homme peut être respecté, Monsieur Clousson et Clou?
Oui, le minimum des droits de l'homme peut être respecté avec ce régime. Et il faudrait que les acteurs des droits de l'homme que nous sommes, nous soyons vigilants pour faire la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme et notre pays deviendra un pays, un état de droit respectueux des droits de l'homme.
Merci beaucoup, Monsieur Clouson et Clou de l'ATDH, Association Togolais des Droits de l'Homme au Togo. Merci d'être au studio avec nous. Alors, Monsieur Professeur Aimé Tchabouré-Gogué, moi, je préfère vous appeler comme ça, professeur, puisque vous l'êtes. Alors, Professeur Tchabouré-Aimé-Gogué, pour conclure avec vous, je disais que vous êtes membre du FRAC, et pour conclure avec vous, vous êtes en Suisse, il y a beaucoup de Togolais qui résident sur cette terre helvétique. Et même au-delà de ça, la diaspora togolaise est à l'écoute de cette émission Fenêtre sur l'Afrique, et qui sera bien sûr rediffusée demain au Togo, hein, sur notre radio partenaire Légende FM, déjà demain à 18h heure locale. Alors, quel serait votre message à l'endroit de cette diaspora dans cette lutte pour un état de droit au Togo?
Non, mon message est suffisamment simple. Je crois que une grande partie de cette diaspora n'a pas choisi résider ici. Je crois que la diaspora doit avoir le choix de pouvoir rentrer quand elle veut. Les Togolais doivent pouvoir rentrer au Togo quand ils veulent, et faire vacances comme ils veulent, etc. Alors, pour nous, du FRAC et de l'opposition en général, nous espérons que la diaspora devrait contribuer sincèrement à la lutte pour le changement du régime. Je préfère ne plus dire régime RPT, de pouvoir de Faure Gnassingbé. C'est deux distinctions. Donc, la diaspora fait déjà suffisamment, mais elle doit faire encore beaucoup plus, parce qu'elle connaît les conditions de vie que nous avons. La démocratie, c'est une lutte de tous les jours. Mon camarade vient de le dire, les droits de l'homme, ça se conquiert tous les jours. C'est des efforts quotidiens qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas que la diaspora pense que soit découragée. Je dirais même, parfois il y a des gens qui disent, écoutez, les leaders nous trompent, il y a certains qui quittent, qui s'allient au régime, bon, nous sommes découragés. Il y a quelqu'un qui me disait que, à l'église catholique, je suis catholique, le prêtre est le représentant, entre guillemets, de Jésus-Christ, c'est lui qui prêche, mais ce n'est pas parce que le prêtre fait des erreurs ou bien qu'il prêche, qu'il va aller au ciel. Il est possible que ce soit le catholique qui n'ait rien dans la hiérarchie de l'Église, qui aille au ciel, qui aille chez Jésus-Christ. Donc, c'est notre foi, individuellement, notre foi pour la démocratie qui doit nous aider à conquérir cette démocratie. Donc, j'invite la diaspora à avoir foi à la démocratie. Je vous remercie.
Merci, merci, merci beaucoup. Je pense que M. Clouson et Clou a un dernier mot, 30 secondes.
Oui, le dernier mot, c'est de dire aux Togolais, comme nos parents l'avaient dit, peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise renaîtra.
Bien sûr, la nation togolaise renaîtra, bien sûr également. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci, merci beaucoup au professeur Aimé Tchabouré-Gogué de l'Alliance démocrate et pour le développement intégral, également membre du FRAC. Merci également à M. Clouson et Clou, et président de l'ATDH, Association togolaise des droits de l'homme, tous en visite en Suisse. Ils ont accepté notre invitation. Merci également à notre compatriote Franck Agbiponou, et responsable du CMDT en Suisse, conseil mondial de la diaspora togolaise. Nous allons quand même revenir vers vous très prochainement, nous n'avons pas le temps. Merci quand même d'avoir fait également des déplacements depuis Fribourg à Radio Kanaka à Aro. Vous pouvez réécouter déjà dès demain sur le site www.togocity.com, www.icilomé.com, www.cvu-togodiaspora.com ou encore www.mo5.com. Et ceux qui sont à Lomé au Togo peuvent réécouter cette émission sur notre radio partenaire Légende FM, déjà demain à 18h. L'équipe a été complète, et Gisela Rosato, Romé Koudjodi, Prince Freddy, nos deux correspondants Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagnon. Réalisation, présentation, c'était Sylvain Amos. Excellente soirée à toutes et à tous. Yeah.
love you.